Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un modèle qui sera très différent de ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent, puisqu'il intègre de l'apprentissage par renforcement, mais pas que. Il y aura aussi de la programmation génétique et puis un peu une petite dose de raisonnement humain. Donc, dans un premier temps, je vais présenter le modèle et puis ensuite, je vous présenterai un cas d'application qui est celui de la classification de binaire Windows grâce à l'analyse d'appel système. Donc, comme vous voyez sur le schéma là, on a un graphe qui est capable de regarder les appels système qui sont représentés sous forme graphique dans le slide. J'essaye de trouver. Donc, chez Silicom, nous sommes répartis sur plusieurs sites en France. Nous avons essentiellement des activités IT et notamment des activités de cyber en région Île-de-France. En région Île-de-France, du côté du sud-est, dans la région de Toulon, et puis à Rennes, où on exerce aussi des activités d'IA et de big data. Donc maintenant, je vais faire un petit focus et un petit rappel sur l'apprentissage par renforcement, parce que je pense que c'est nécessaire. Donc, on a un agent RL qui évolue dans son environnement. Il effectue des actions qui permettent de modifier l'environnement. Ensuite, lorsque l'environnement est modifié, il est capable de constater des changements d'état de l'environnement et il récupère aussi des récompenses. Le but du jeu pour cet agent, c'est de trouver la meilleure stratégie d'action pour maximiser le niveau de récompense. Donc le reinforcement learning, c'est un algorithme d'apprentissage semi-supervisé. Ça veut dire qu'il a besoin de données labellisées par l'humain. Et c'est aussi un algo qui ressemble un peu à ce que l'on peut faire dans notre vraie vie, dans le sens où il fonctionne par apprentissage, essai-erreur. Ce type d'algorithme a eu beaucoup de succès retentissant, notamment au travers du jeu de Go, où vous avez sûrement entendu parler de AlphaGo et AlphaGo Zero, puisque l'algorithme est désormais capable d'imaginer des stratégies qu'aucun humain n'avait inventées jusqu'à présent. Et puis en quelques heures d'apprentissage, il est capable de surpasser le meilleur joueur de Go au monde. Seulement quelques heures d'apprentissage. Et puis un autre exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est celui d'un autre algorithme qui permet de faire émerger une locomotion chez un personnage virtuel. Donc je vous laisse admirer le résultat. Donc ça a bien fait marrer la communauté l'an dernier. Toujours est-il que c'est malgré tout efficace, simplement en ayant à l'idée que l'objectif c'était d'avancer, l'algorithme est capable de faire contourner les obstacles à notre personnage virtuel. Maintenant je vais vous présenter notre projet. Nous avons commencé ce projet dans le cadre de la montée en puissance des technos d'IA pour le compte de la cyberdéfense avec la DGAMI il y a un an et demi, deux ans. Donc on a fait un premier état de l'art à l'époque qui était dédié à l'étude de tous les papiers deep learning et reinforcement learning appliqués à la LID, donc lutte informatique défensive. Donc on n'a pas trouvé pléthore de papiers, hein. On en a étudié malgré tout 80. Parmi ceux-ci, certains étaient très intéressants, ils faisaient de l'analyse statique, de l'analyse dynamique. En revanche, un papier nous a particulièrement attiré notre attention, il s'agit du TPG, que l'on voit ici. Donc il a pour particularité d'avoir beaucoup de propriétés d'émergence. C'est ce qu'on aime bien chez Silicom. Ensuite, Ce papier a obtenu de très bons résultats et puis était basé sur un algorithme un peu plus ancien qui s'appelle le SBB, qui a pour fait d'arme d'être dans les meilleurs papiers pour la détection de flux malveillants et puis également pour la détection de botnets. Donc cet algo, il a pour particularité de faire émerger les états qu'il faut observer pour répondre à un objectif donné. Donc on voit par exemple que pour le jeu Battlezone, où le score a été très très bon, on n'a pas besoin d'observer toute la scène pour pouvoir décider, on observe simplement ce qui n'est pas en gris. Et malgré tout, on est super performant. Donc je vais vous parler maintenant de cet algo et surtout des modifications qu'on y a apportées. Donc c'est le slide le plus compliqué de la présentation. Donc il s'agit de notre programme qu'on appelle SIVA, qui repose fortement sur le TPG. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la meilleure politique ou la stratégie d'action est représentée par un graphe. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans ce graphe, on a des route teams en orange, on a des teams en bleu, on a des actions en bleu clair et on a des programmes en rouge. Donc, je vais vous expliquer après ce que ce sont ces entités, mais en l'occurrence, il s'agit de faire évoluer ou coévoluer toutes ces entités de ce graphe de façon à faire émerger la meilleure stratégie d'action, ce qui va permettre de répondre à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, on va pouvoir considérer que la route team s'appuie sur les programmes. Ce sont plein d'agents, une multitude d'agents qui sont capables d'observer la scène, mais également de prendre une décision pour savoir, pour indiquer le chemin à suivre vers l'action finale. Donc il faut savoir qu'un programme, c'est un programme génétique, donc c'est un programme qui évolue en permanence pendant l'apprentissage, qui comporte dans notre cas jusqu'à 16 paramètres, dans le cas du TPG seulement jusqu'à 4. Donc on a rajouté pas mal de paramètres pour tenir compte de ce qu'on appelle le raisonnement humain. Donc notamment, le programme comporte N instructions, et dans chaque instruction, on a une fonction d'attention et on a une prédiction de propriété. Donc la fonction d'attention est capable de calculer une propriété de l'environnement, alors que la prédiction est définie par l'IA au départ. Donc l'idée, c'est de comparer la prédiction avec le résultat de la fonction d'attention pour donner une qualité de prédiction. Donc la qualité de prédiction, lorsque le programme est exécuté, est sommée. Et puis les programmes qui ont la meilleure qualité de prédiction vont indiquer le chemin à suivre. Donc il faut savoir que ce type d'algorithme a pour particularité forte de faire émerger des corrélations entre les observations, les actions et l'objectif qui est fixé. Donc je vais faire un petit focus sur la prise de décision. Donc nous avons une route team qui a à sa disposition trois programmes. Chaque programme va être exécuté à chaque moment après chaque action. Donc on a la suite d'instructions du programme. Toutes ces instructions vont être exécutées. Et puis à l'issue de l'exécution de ces instructions, on va avoir un niveau de qualité de prédiction. Ce niveau de qualité de prédiction va être rendu à l'équipe qui va, elle, décider du chemin vers lequel il faut se rendre. Donc en l'occurrence, dans notre cas, on a un programme qui a une qualité de prédiction de 100, un autre de 90, un autre de 94. Donc c'est ce programme qui va être choisi pour dire que l'on va prendre cette décision. Donc, voici une petite illustration sur un graphe un petit peu plus gros, où l'on voit que le modèle réagit très dynamiquement. Et par exemple, une IA qui pilote un petit robot virtuel qui essaye de s'échapper, poursuivi par un autre robot virtuel et qui essaye de s'échapper, y arrive en simplement regarder une partie de l'environnement, par exemple cette partie-là. Donc il arrive à aller vers le haut alors qu'il est poursuivi. Donc le principe de l'algo, c'est vraiment une notion de perception, une notion de calcul basé sur la qualité de prédiction, ensuite un lien vers l'action, et puis l'action qui est réalisée. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont l'algorithme fait évoluer le graphe. Donc, on a N route team en compétition. Chaque route team exécute un batch de challenge. C'est un ensemble de challenges qui sont dans un dataset d'entraînement. Les pires route teams sont éliminés. Dans notre cas, c'est la moitié des route teams qui sont éliminés. Alors que la meilleure route team est retenue. Celle-ci va être d'abord clonée. Ensuite, le clone va être muté. Alors, ce qui va être muté, ce sont les programmes, les instructions et les liens vers les actions. Ce qui fait qu'on va avoir, potentiellement, on peut imaginer que celle-ci soit clonée, elle va être répliquée ici. Le programme numéro 13 va changer en un autre programme qui sera numéro 14 ou 15. Et ensuite, le lien vers l'action peut être modifié aussi. Il peut pointer vers une autre équipe ou alors vers une autre action. Donc si l'on veut voir l'évolution de l'algorithme, on obtient ce que je vais vous montrer. Donc au fur et à mesure, les programmes vont, et les équipes vont s'enchevêtrer, ce qui fait qu'on aura in fine des programmes qui appartiennent à plusieurs équipes. Donc ça fait émerger une sorte de graphe de décision automatiquement. Maintenant, je vais vous présenter notre framework dans lequel on a implémenté le module TPG et SIVA surtout. Donc, notre framework s'appuie sur deux éléments. Un module IA donc, qu'on appelle SIVA qui repose sur les concepts TPG et un module métier qui est vraiment dédié au métier parce que les objectifs sont propres à chaque métier. Le module métier est capable de donner à manger au module IA, notamment tout l'environnement lui est donné à manger. Ensuite, il définit les actions, il est capable d'exécuter les actions et il est capable de donner les récompenses au module IA. Donc un petit focus plus précis sur le module métier. Donc on voit ici que en temps réel, le module métier donne les données au module IA. Donc ce sont par exemple, dans notre cas, des traces d'appel système qui sont constituées de 80 octets. Donc il y a le timestamp en millisecondes, en secondes, il y a l'ID de l'appel système, il y a le retour de l'appel système, etc. etc. et puis il y a les arguments de l'appel système. Donc tout ça, c'est représenté sous forme graphique ici. Donc ce dont il faut se souvenir en tout cas, c'est que le module métier construit en temps réel l'environnement pour le module IA. Ensuite, donc, c'est lui qui est capable de définir des actions. En l'occurrence, dans notre cas, ce sont des actions de décision. Est-ce que le malware sera de type ransom, sera de type trojan, sera de type miner, etc. Ou ça sera plusieurs de ces types en plus. Et puis le point le plus important, puisque la structuration du système de récompense est très très importante dans le reinforcement learning, on a une sorte de calcul de score qui correspond à l'objectif final qu'on s'est fixé. En l'occurrence, dans le cadre de notre métier de détection de malware et de classification de malware, il s'agit de trouver un taux de faux positif le plus faible possible. Donc on a une formule qui tient compte à la fois du FP, des fausses positives, du TP, du TN et du FN. Maintenant, je vais vous parler de notre module IA un petit peu plus. Donc on a, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, beaucoup de programmes qui émergent au fur et à mesure, qui disparaissent, avec des équipes qui émergent aussi, qui disparaissent. Et on obtient ce genre de graphe. Donc ce qu'on a apporté au TPG, ce sont essentiellement les deux choses suivantes. Des fonctions d'attention qui permettent de faire une fiche hard extraction automatique. Ça veut dire qu'on a beaucoup de fonctions d'attention qui sont capables de trouver les propriétés de distance, d'état, de nombre et de transition temporelle dans l'environnement. Donc ce sont souvent des petits programmes de quelques lignes qui permettent de calculer ces propriétés spécifiques de l'environnement. Donc le calcul de ces propriétés est basé sur simplement 9 paramètres, donc qui sont des paramètres d'état, des paramètres de distance, qui sont trouvés dans l'environnement par le module IA. Donc ce qu'on a rajouté aussi, c'est la notion de raisonnement humain, dans le sens où en tant qu'être humain, on prédit des propriétés de l'état, on cherche tout le temps à simplifier ce qu'on regarde, et donc ce que l'on prédit doit être comparé à ce que l'on regarde. Donc notre système est aussi capable de corriger en live toute propriété qui a été constatée au moins une fois, c'est-à-dire que dans notre réseau, on ancre toute nouvelle propriété constatée. On ne laisse pas échapper une propriété qu'on n'aurait pas constatée. Et ensuite, on a un système de mutation qui fait que même lorsqu'on s'est trompé ou lorsqu'on a une bonne prédiction, on va supprimer des instructions ou rajouter des instructions en live pendant l'exécution du programme. Donc finalement, j'insiste sur le fait que on ancre dans le graphe toute nouvelle prédiction confirmée. Donc les exemples d'innovation dans cet algo sont qu'on a des agents prédictifs, même si c'est moins innovant. On a des récompenses intrinsèques qui sont rendues par la qualité de prédiction, ça c'est un peu plus innovant. Et ensuite, on a une acceptance de propriétés prédites, c'est-à-dire que même si on n'a pas prédit correctement une propriété, on accepte malgré tout de la récompenser un petit peu. C'est-à-dire si j'ai prédit qu'on avait du vert foncé à un endroit alors que j'ai prédit du vert clair, alors on va malgré tout récompenser. On ne va pas récompenser avec une récompense de 100, mais on va récompenser avec une réponse de 20 ou 30 par exemple. Donc maintenant je vais parler du cas d'application un peu plus précisément. Alors on avait à notre disposition beaucoup de binaires que l'on a passé par la machine Sandbox Cuckoo, ce qui nous a permis d'obtenir beaucoup de traces d'appel système. Chacun de ces binaires a été aussi passé par la moulinette Virus Total, ce qui nous a permis d'avoir facilement une labellisation multiclasse de tous les binaires. Donc on a pu constituer ainsi un gros dataset d'environ 5000 binaires avec deux fichiers JSON qui comportent la multiclasse de chaque binaire. Donc un dataset d'entraînement qui comporte à peu près 2700 binaires et un dataset d'évaluation de 2200 binaires. Donc là, il y a une petite différence entre les deux parce qu'on s'est aperçu en cours de route qu'on avait des binaires qui était bien que les rapports étaient générés, les rapports étaient vides, ou alors la section qui concerne les appels système était vide. Donc c'est la raison pour laquelle on n'avait pas le temps de recommencer, donc c'est la raison pour laquelle on a cette différence de 500 à peu près binaires de différence. Donc pour chacun des binaires, on avait à notre disposition finalement une moyenne de 9579 traces d'appel système, ce qui fait qu'on a travaillé sur un dataset d'entraînement d'environ 22 millions de traces d'appel système. Donc ce qui est vraiment donné à manger à l'IA, c'est un fichier JSON, qui est celui-ci. Donc on s'était fixé un objectif de FPR de 0% pour de la classification multiclasse, c'était très ambitieux, mais malgré tout, on n'est pas si loin que ça. Alors, on a, si vous vous rappelez de la façon dont on calcule le score, on avait un facteur de pondération, donc pour favoriser le FPR, on a choisi un facteur de pondération du FP de 1 et puis un facteur de pondération pour le TP de 0,75. Les autres, on les néglige. Donc on obtient un FPR relativement bon de 0,28% en 32 heures avec un ACC de 89,16. Donc c'est pas excellent, mais malgré tout, c'est pas si mauvais que ça en 32 heures. Un TPR relativement faible, mais on pourra sans doute faire mieux. Et puis, donc les autres indicateurs qui correspondent. Donc, il faut savoir aussi que la fenêtre que l'on regarde dans notre système est composée de 100 appels système. Mais notre modèle SIVA est capable de regarder également les 100 précédents, ou les 200 précédents, ou les 300 précédents. C'est un des paramètres qui est dans chacune des instructions. Donc j'ai voulu vous montrer la courbe d'apprentissage à gauche. Donc c'est pour montrer que malgré le fait que les niveaux augmentent régulièrement, le système continue à apprendre par essai et erreur. Ce qui fait que de temps en temps, il se plante royalement et puis de temps en temps, il augmente. Ça permet de sortir des puits de potentiel que l'on pourra avoir si on mutait pas fortement les programmes, les instructions, les équipes, etc. Et puis à droite, une courbe plus propre à SIVA et moins propre au métier. Il s'agit de montrer qu'on a un nombre d'équipes et un nombre de programmes. Donc un nombre de programmes ici et un nombre d'équipes ici qui croît au départ, mais qui ensuite commence à se stabiliser pour atteindre un palier. Donc pour conclure, on a un modèle qui fait émerger un arbre de décision, qui fait émerger de fortes corrélations entre les fonctions d'attention, la perception des agents, les actions et l'objectif à atteindre. Tout ça grâce à l'émergence d'un point très fort qui sont les liens entre les équipes, les programmes et les actions. Il y a une notion d'explicabilité forte puisque on est capable de retrouver exactement le chemin qui nous a mené à la prise de décision. Et dans ce chemin, on est capable exactement de retrouver ce que les programmes ont découvert, enfin, ce qu'ils ont observé pour prendre leur décision. Il y a un fort pouvoir de discrimination ou de segmentation qui est caché dans les programmes. Donc chaque programme fait émerger les fonctions d'attention, donc les prédictions ou les choses les moins variantes. Tout ça, c'est caché dans les programmes. Ensuite, c'est adaptable à beaucoup de use cases. Dans notre cas, on l'utilise pour des time series, on l'utilise pour de la classification, d'optimisation d'algorithmes, on l'utilise pour des jeux vidéo, etc. Donc au final, on obtient dans notre cas un graphe assez gros. Donc il y aura une petite vidéo qui vous sera présentée tout à l'heure. Malgré tout, il y a des faiblesses hein, à cet algo. 32 heures, c'est quand même un peu long, même si on a 2700 binaires d'apprentissage. Les mutations sont trop longues, donc les liens entre les agents n'émergent pas rapidement. Et puis c'est un algo qui n'est pas forcément évident à paralléliser. Puis attention, par contre, j'ai des considérations éthiques à donner puisque dans le cas de l'apprentissage par renforcement, on est capable de donner n'importe quel type d'action à l'algo. Donc on avait essayé notamment, nous, de notre côté, de donner des actions de clic-souris et de déplacement à droite, à gauche de la souris. Et très vite, le modèle, il a fait n'importe quoi. Ce qui fait que pour l'empêcher de continuer, on a été obligé d'arrêter la machine. Donc c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, en tout état de cause, c'est juste pour insister sur le fait que à un modèle naissant, il ne faut pas lui mettre entre les mains des actions trop puissantes. Donc, comme je le dis ici, ne donnez pas une arme à votre bébé. Donc, pour faire évoluer nos modèles, je ne sais pas si vous avez vu, on parle de raisonnement humain, On tient beaucoup compte des aspects liés à l'évolution de la vie. Donc, on a trouvé un aire de parenté assez fort entre le bloc qu'on voit ici et puis notre modèle et la façon dont il évolue. Donc, on le voit ici sur la cellule, le blob, la cellule géante et intelligente. Et ensuite, la curiosité est une source d'inspiration pour nous. Alors, la curiosité dans tous les domaines, parce qu'on estime que pour améliorer l'IA, il faut parler de neurosciences, de philo, d'évolution du vivant et d'algo mathématiques, évidemment. Merci de votre attention. Jérôme, est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît ? Donc, c'est juste pour vous montrer un petit exemple de l'outil qu'on a mis en place qui permet de montrer la prise de décision qui est faite en quelques millisecondes pour un binaire donné. Donc on voit les traces d'appel système qui sont observées ici en gris. On voit que ça se focalise beaucoup sur cette zone qui correspond à l'ID des appels système. Voilà, c'était pour montrer une petite vidéo. Et puis les fonctions d'attention, elles sont relativement compliquées. Donc on les voit sur la gauche. Elles ont disparu. Elles réapparaissent. Donc on a des fonctions d'attention qui regardent à droite, à gauche, en haut, en bas, et qui sont basées sur l'utilisation de beaucoup de paramètres. Donc là, on a notre IA qui regarde en temps réel comment évolue notre binaire et les traces d'appel système qui se déroulent au fur et à mesure avant de prendre une décision. Merci. Avez-vous des questions ?
La parole est à la salle. Au premier rang, ici. On aura...
Juste merci pour la présentation, mais vous ne nous avez pas dit comment vous avez pu distinguer entre les différents trojans, malwares, DOS attacks après le graph.
Oui, ça s'est plus expliqué dans le papier. On n'a pas pu tout mettre dans la présentation, sachant que l'algorithme il est déjà relativement compliqué. La distribution est marquée dans le papier, je ne la connais pas par cœur.
Ah, d'accord. Et une autre question pour le JSON que vous avez donné.
Oui.
Donc en fait, c'est uniquement ça que vous donnez pour dessiner les graphes ou qu'est-ce que...
Tout à fait.
C'est tous les paramètres et qui inclut uniquement les appels système.
Non, il y a uniquement les appels système.
D'accord.
Donc la section processus d'un rapport QQ.
Ok. Et si un malware ne va pas s'exécuter dans un environnement virtuel, vous faites quoi ?
S'il y a
un malware qui ne va pas s'exécuter dans le QQ sandbox.
Oui, on ne préfère pas, on l'a déjà fait.
Ah, d'accord.
Sauf que on s'est fait pourrir. Donc, notamment, on a vu apparaître des images qui indiquaient qu'on a eu un ransomware. Donc, on préfère ne pas continuer, on préfère l'exécuter en environnement sandboxé.
Ok, ça marche. Merci.
De rien.
Une autre question. Il y en a plusieurs. Donc, on va prendre en haut à droite. Voilà, commencer, puis après, on va redescendre.
Vous avez dit que vous étiez capable de démontrer comment la machine avait appris. Est-ce qu'il y a un facteur d'échelle où humainement on n'arrive plus à comprendre comment la machine a fait, ou est-ce que dans tous les cas, quelle que soit l'échelle, on arrive encore à expliquer comment l'algorithme a fait pour évoluer et définir ses nouvelles règles ?
Oui, c'est une bonne question. Non, dans le cas de notre application au malware, on a toutes les informations qui nous permettent de dire comment a décidé chaque malware pour dire si c'est un malware de type trojan et miner ou seulement adware, on a toutes les infos. En revanche, on n'a pas forcément les outils visuels pour les voir rapidement. Ça, c'est une des prochaines étapes du projet.
Donc, il y avait des questions en bas.
D'ailleurs, pour compléter, on a constaté que les fonctions d'attention qui calculent des distances émergent fortement et souvent, quel que soit le type de problème que l'on rencontre. Là, c'est le cas pour les malwares, mais c'est aussi le cas pour d'autres types de classifications ou alors même des jeux vidéo. La notion de distance est très très importante.
Oui, je voudrais rebondir sur la question qui avait été posée tout à l'heure.
Oui.
Il existe un certain nombre de malwares maintenant qui testent s'il est en train de s'exécuter dans une cuckoo sandbox. Et si oui, ne se déploie pas. Donc du moment que vous arrivez dans une cuckoo sandbox, vous avez une forte probabilité de ne rien détecter.
Oui, oui, je suis d'accord. En revanche, il y a peut-être une trace qui nous fait dire qu'on est capable de vérifier quelque chose. Mais dans l'idée, on a envie de mettre des anti-VM détecteurs. C'était aussi une des suites du projet. Mais il y a plein de perspectives. Il y a l'utilisation même de rejeux de traces qui sont faites dans un autre environnement, au travers de QMU, par exemple. Tant qu'on a des traces, des time series avec les appels systèmes, on pourrait imaginer qu'on aura malgré tout de bons résultats. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faudrait récupérer plus d'informations, peut-être pas uniquement les appels systèmes, mais aussi d'autres types d'informations telles que des logs divers et variés.
Voilà. Merci pour la présentation. Moi, j'ai tellement de questions que je vais en poser que trois. C'est 32 heures sur quelle machine ?
Ah oui, bonne question. C'est marqué dans le papier aussi. C'est sur une machine standard, 16 GHz, 16 gigaoctets de RAM et 3,4 GHz.
D'accord. Et dans un des exemples que vous avez montré au départ, là, en fait, on a une forêt, c'est-à-dire que c'est des arbres non connexes. Et oui. À un moment donné, là, le graphe devient connexe.
Oui.
Ouais, toujours.
Toujours. Oui, c'est la particularité.
C'est nécessaire.
C'est nécessaire, ça permet de partager de la connaissance en fait.
D'accord.
De partager des agents qui sont utilisés par une équipe et aussi par une autre.
D'accord. Et une dernière petite question. Vous avez essayé de mettre moins de malware pour voir s'ils arrivent au même résultat, enfin si votre algorithme arrive au même résultat.
Alors,
est-ce que c'est pas trop dépendant des malwares que vous lui donnez en entrée?
C'est forcément dépendant de la qualité du dataset. Je vous l'accorde. En revanche, on avait essayé au départ sur 950 malwares et on avait 0,27%.
D'accord.
En fait, on a eu des critiques sur le premier papier au départ. Et puis quand on a réussi à avoir un peu plus de malwares, on a obtenu 0,28%. Et sans artifice, hein, on n'a pas cherché à tricher du tout.
Et ça passerait à 1 million de malwares en entrée?
Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison pour moi, mais ça prendrait probablement beaucoup de temps.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une autre rafale de questions? Parce qu'elle part en plusieurs actuellement. Oui, en haut à droite.
Bonjour, merci pour la présentation. À propos des difficultés de la paralysation de votre approche, quelles sont les limites? Et notamment puisqu'on part d'une forêt de plusieurs arbres qu'on va rassembler en un seul graphe à un moment, est-ce que c'est possible de répéter cette approche, de la distribuer sur différentes machines?
Alors, ce qu'on imagine, c'est distribuer effectivement le calcul pour chaque root team. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un nombre de root team qui peut varier. Parfois c'est 2, parfois c'est 12, parfois c'est 20. Mais on peut imaginer de faire le calcul pour chaque root team séparément. Mais pour le reste, on n'a pas trop réfléchi à la question, et puis j'avoue que je pense que c'est compliqué.
Question en haut à gauche.
Donc là, en fait, vous êtes sur une approche dynamique.
Oui.
Est-ce que vous avez regardé la possibilité de repasser sur une approche classique avec un dataset calculé dynamiquement? Puisqu'on a l'impression qu'il y a des invariants et que vous êtes dépendant du dataset.
Une approche statique, ça veut dire que vous pensez ne pas regarder les traces d'appel système, mais le binaire directement?
Non, en regardant la timeline avec les appels,
oui.
Et en repassant sur une approche deep learning classique.
Ça, on n'a pas fait, mais cela dit, les traces d'appel système, pour une approche deep learning classique, c'est moins évident parce qu'il faudrait transformer ça sous forme d'image de taille fixe, alors que là on a des malwares qui ont des fois 100 appels système, des fois 1000, des fois 100 000. Je pense que l'utilisation de deep learning n'est pas forcément évidente, quitte à passer sur réseau neurones récurrents LSTM par exemple, mais on n'a pas fait l'essai.
Y a-t-il encore des questions? Ah, on en a une à peu près au milieu.
Bonjour. L'approche d'apprentissage par renforcement repose sur un concept de récompense, puis on s'approche de l'objectif, plus la population est récompensée. Sur le cas du malware, quels sont les concepts de récompense que vous avez introduits?
Alors, simplement, les taux de vrais positifs, de faux positifs, d'accuracy, de faux négatifs, de vrais négatifs, et un petit système qui nous disait qu'on était arrivé aussi à la fin du fichier, parce que sinon on continuait invariablement. Mais ce sont les seuls types d'indicateurs qu'on a mis en œuvre pour le calcul du score. Dans d'autres problèmes, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça de formaliser un score.
Y a-t-il encore une autre question? Ah, en haut à gauche.
Bonjour, merci pour la présentation. Par rapport à l'entrée variable, il y a possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le multi-instance learning. Effectivement, il y a aussi possibilité avec les RNN. Mais ma question concerne les syscall. Dans un contexte Windows, c'est quoi un syscall pour vous?
C'est ceux qui sont sortis par QQ. Donc il y a les appels de toutes les fonctions de la lib kernel32.dll. Puis il y a toute une batterie d'autres types d'appels. Okay, ce ne sont pas effectivement les appels système de bas niveau.